RMC Grand Plateau, Roxane Lacusca.
Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Grand Plateau. Si certains sont plus branchés fêtes de fin d'année et autres dindomarron ou se demandent encore quand les vacances arrivent-elles, et bien d'autres ont repris le chemin de l'entraînement et préparent déjà la saison prochaine qui arrive à grands pas. C'est du moins le cas de l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand coureur cycliste actuel qui passionne les foules. J'ai nommé Tadej Pogacar. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la reprise du Slovène. Comment prépare-t-il sa rentrée? Sur quelle course va-t-on pouvoir l'admirer cette saison? Et surtout, va-t-il tenter de remporter ce que nul n'a jamais fait, à savoir le Giro, le Tour de France et la Vuelta sur une seule et même année? Tant de questions auxquelles notre consultant Jérôme Coppel tentera de répondre avec son œil d'expert. Salut Jérôme!
Salut Roxane, salut Arnaud!
Comment ça va?
Bah ça va très bien, et vous?
Ça va très bien.
Je suis bien content de parler de Tadej Pogacar, ça faisait longtemps.
Oui, c'est vrai que ça faisait longtemps. Jérôme, t'es remonté sur la selle d'un vélo, toi, ou t'es plutôt concentré sur le menu des fêtes en ce moment?
Ouais, je suis plutôt menu des fêtes, je suis remonté sur des skis, pas plus tard qu'hier, mais pas sur un vélo. Hein. C'est vrai que j'utilise plus beaucoup le mien maintenant.
Ça n'enlèvera en rien ton expertise, j'en suis sûre. D'ailleurs, on t'a entendu parler de nutrition dans le précédent épisode de Grand Plateau, épisode passionnant d'ailleurs qu'on vous conseille d'aller écouter si ce n'est déjà fait. Et pour nous accompagner aussi, on a Arnaud Souk qui a suivi lui la rentrée de Poggi en Espagne cette semaine. Il est également avec nous. Salut Arnaud.
Salut les amis, salut à tous.
Bon, toi là c'est boulot, hein, la raclette, on verra ça plus tard.
Oui, enfin on verra ça plus tard. Roxane, je crois qu'on a une raclette prévue lundi. Hein,
ouais, donc, je crois que c'est vrai. Ouais, je crois qu'on a une raclette bientôt.
Ouais, c'est ça.
Très bien, on va se régaler. En tout cas, ça c'est une saison qui va nous passionner, qui ne démarrera pas tout de suite pour le Slovène, mais qu'on a hâte de suivre pour revivre, qui sait, une saison aussi exaltante que la précédente.
Tadej Pogacar qui a écrasé une dernière fois de son impitoyable main de fer cette année 2024. Les bras levés, l'arc-en-ciel vers le ciel justement. Tadej Pogacar, 25e victoire de la saison. Le épilogue d'une année absolument exceptionnelle. Vainqueur du Tour d'Italie, vainqueur du Tour de France, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, champion du monde et désormais vainqueur du Tour de Lombardie avec le bras levé et les vélos surtout dans les bras.
Quelle saison on a vécu quand même, messieurs, dans la roue de Poggi. Jérôme, qu'est-ce qui t'a le plus marqué, toi, de l'année 2024 de Pogacar?
C'est difficile de sortir qu'un exploit de Tadej Pogacar hein, quand on voit la saison qu'il a réalisée. Maintenant, moi, j'en retiens plutôt deux. C'est la triple couronne, donc la victoire au Giro, au Tour de France et au championnat du monde, bien sûr, parce que c'est quand même un exploit qui est monumental. Après, si vraiment je dois en mettre un encore au-dessus de cette triple couronne, pour moi, c'est sa course au championnat du monde que j'ai eu la chance de commenter avec Arnaud. Franchement, c'était une course complètement incroyable. Il sort à 100 km de l'arrivée, il fait les 50 derniers kilomètres tout seul sur un circuit ultra dur. On savait que c'était son objectif. Comme d'habitude, tous les autres coureurs, toutes les nations l'attendaient, mais voilà, personne n'a réussi à prendre sa roue. Et pour moi, c'est un exploit gigantesque qu'il a fait ce jour-là pour aller chercher son premier titre de champion du monde.
Même question Arnaud, toi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué de sa saison ?
Ce qui m'a le plus marqué, je dirais, c'est sa capacité à être fort dès le début, en fait, dès le Tour de Catalogne où il a été monumental, jusqu'à la toute fin, en fait, jusqu'au Tour de Lombardie en octobre. Être aussi fort de février à octobre, franchement, il y a quand même peu de coureurs qui sont capables de le faire. Et voilà, je pense que c'est la globalité de sa saison, sa régularité au très très haut niveau, être capable de gagner tout au long de l'année, de toujours faire partie des coureurs, voilà, des épouvantails de la course. Je pense que ça a été très marquant et pour moi, saison 2024, elle restera gravée comme ça pour Tadej Pogacar.
Alors c'est vrai qu'on a eu l'occasion de faire un long bilan de cette saison 2024 exceptionnelle de Grand Plateau. Arnaud, cette semaine, toi, tu as pu aller le rencontrer, Tadej Pogacar, pour sa rentrée. Qu'est-ce qu'il en dit, lui, de sa saison 2024?
Bah, il dit tout simplement que sa saison 2024, voilà, elle est exceptionnelle. Tadej Pogacar a bien conscience quand même quelque part qu'il a un petit peu marqué l'histoire. En tout cas, il le reconnaît, pour lui, c'est clairement la meilleure saison de sa carrière. Mais bon, de toute manière, les chiffres ne mentent pas. Hein, 24 victoires en 55 jours de course. De toute manière, il ne faut pas aller chercher bien loin. Et ce qu'il dit aussi, et alors ça, c'est plutôt à prendre, on va dire, c'est à nous d'en juger. C'est lui qui nous laisse mettre de jugement là-dessus. Il nous dit bah c'est peut-être l'une des meilleures saisons finalement pour un cycliste sur ces dernières décennies. Et c'est vrai qu'il faut certainement se retourner vers Bernard Hinault, voire vers Eddy Merckx pour trouver trace d'une saison aussi complète. Donc voilà ce que dit Tadej Pogacar.
On va l'écouter d'ailleurs, Tadej Pogacar, parce que tu l'as interrogé sur sa vision sur cette saison 2024.
Pour moi, c'était ma meilleure saison en carrière, peut-être même l'une des meilleures saisons de l'histoire de ces dernières décennies, mais ça n'est pas à moi d'en juger. Ça a été une année exceptionnelle. Quand je me couche le soir, j'ai de très bons souvenirs qui me viennent en tête.
good things in my mind.
Bon, donc 2024, c'est fait. Maintenant, ce qu'on attend, c'est le programme de sa saison 2025. C'est quoi exactement son programme, Arnaud ?
Alors, son programme, il va commencer... alors, vous savez qu'il est dans l'équipe UAE Team Emirates. Et donc, il va commencer justement autour du UAE. Hein. Tout ça, c'est, on va dire, le soft power des Émirats Arabes Unis. Et Tadej Pogacar va aller sur cette compétition. C'est une course à étapes d'une semaine. C'est peut-être pas la plus connue, mais ça reste quand même une course extrêmement relevée, une course où il y a beaucoup de relief. Donc voilà, il faudra l'attendre, évidemment... sur cette course. Derrière, il va y avoir une énorme campagne de classiques pour Tadej Pogacar. Retour sur les classiques italiennes, l'Estrade Bianche qu'il a écrasé cette année. Il va aller sur Milan-San Remo. Ça, c'est vraiment la course qui se refuse à lui. On aura peut-être l'occasion d'en parler un petit peu plus tard dans cet épisode. Et puis, retour 2 ans après sur les Flandriennes, sur les pavés du Nord. Alors, il ne fera pas Paris-Roubaix. C'est trop juste pour l'instant. Ça demande trop d'implication. Ça aussi, on aura l'occasion d'en reparler. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il sera sur le Grand Prix E3 d'Arelbeek. Il sera également sur Gambwe-Belgem. Il sera sur le Tour des Flandres qu'il avait remporté il y a 2 ans. On va l'attendre évidemment sur les classiques ardennaises. Je pense à l'Amstel Gold Race, je pense à la Flèche Wallonne, je pense à Liège-Bastogne-Liège. Il y aura ensuite le Dauphiné, peut-être. S'il ne fait pas le Tour d'Italie, il sera sur le Dauphiné en préparation du Tour de France. S'il fait Tour d'Italie, il ne fera pas derrière le Tour de France le Tour d'Espagne. Et puis ça finira évidemment par les championnats du monde et le Tour de Lombardie. Vous l'avez compris, en tout cas, il n'y aura pas les 3 grands tours cette année pour Tadej Pogacar. En tout cas en 2025, ça sera soit Giro Tour, soit Tour de France Vuelta, et ça on le saura assez rapidement, on le saura le 19 décembre au moment où justement le parcours de la Vuelta sera révélé.
C'est une sacrée saison quand même qui l'attend, Jérôme.
Ouais, c'est une sacrée saison, mais comme d'habitude finalement pour Tadej Pogacar. Alors en termes de jours de course, il court pas énormément. Hein. Voilà, il a toujours des gros objectifs dans sa saison, mais il fait pas énormément de jours de course. Hein. L'année dernière, on a dit 54 jours de course, c'est pas énorme pour un coureur de ce calibre quand on prend les années d'avant, même si on remonte. Pas si vieux que ça, jusqu'à un Thomas Vauclair par exemple, même si c'était pas le même type de coureur, mais c'était 80 à 100 jours de course par an. Mais Tadej Pogacar, dès qu'il se présente au départ d'une course, c'est pour la gagner par contre. Donc c'est toutes des courses objectifs. Lui, il est tellement fort qu'il arrive à gagner des courses quand il n'est pas à 100% de sa forme. Donc même à 85-90% de sa forme, il arrive encore à gagner des courses. Là, comme a dit Arnaud, il a vraiment, alors à part UAE, la première course par étape de la saison pour lui, après c'est vraiment sa saison, elle est vraiment divisée en deux. Il y a une grosse partie sur les classiques, avec, j'imagine, le gros objectif de sa carrière pour l'instant. C'est un des objectifs qui lui reste, en tout cas, c'est d'aller gagner Milan-San Remo. Il revient sur les classiques flandriennes et puis pourquoi pas un triplé sur les ardennaises. Et après, il y a toujours cet inconnu du parcours du Giro et il attend de voir le parcours du Giro pour savoir s'il va s'aligner ou pas. Et comme l'a dit Arnaud, pour savoir si ça sera plutôt Giro-Tour ou Tour-Vuelta. On sait qu'il n'a encore jamais gagné la Vuelta, c'est le seul grand tour qui lui manque. C'est une grosse saison, mais de nouveau, il est encore capable de toutes les gagner finalement, même des courses qui sur le papier ne lui conviennent pas trop. Il est tellement fort qu'il est capable de toutes les remporter.
Alors justement, Arnaud vient de nous dire qu'il ne ferait pas les 3 grands tours. C'était un peu l'interrogation qu'on avait, de se demander s'il allait tenter ce que personne n'a jamais fait, on le disait dans l'introduction. Jérôme, ça te semble raisonnable de ne pas faire les 3 grands tours cette année ?
Bah, cette année, je pense que c'est raisonnable pour plusieurs raisons. Alors d'une, déjà, quand vous allez vous lancer le défi de participer à 3 grands tours, il faut vraiment que ça soit une décision, bien sûr, qui est prise avec l'équipe. Il faut que mentalement, vous soyez prêt. Il faut vraiment qu'il y ait un gros plan de bataille et ça ne se décide pas 3 mois avant. Là, on n'a toujours pas le parcours du Giro. Donc finalement, il ne sait encore pas trop où il va. Ça, c'est le premier point. Il y a encore les championnats du monde qui auront lieu au Rwanda cette année, qu'on annonce très très dur, et Tadej Pogacar veut y aller, veut conserver son titre. Donc pour moi, ce n'était pas la bonne année pour tenter de faire les 3 grands tours avec cet objectif final des championnats du monde. Par contre, 2026, 2027, pourquoi pas ? Et je suis sûr et certain qu'il va le tenter un jour. Maintenant, comment il va réussir à faire passer ça auprès de son équipe, ça c'est une autre histoire, parce qu'il faut que tout le monde ait à manger dans une équipe. Il y a d'autres coureurs qui ont des ambitions sur les grands tours.
C'est ce qu'il laisse entendre, Arnaud, toi qui l'as rencontré. Il laisse entendre qu'un jour, il aimerait bien les tenter quand même, les 3 grands tours.
Il le dit, hein, il le dit très clairement, même s'il faut un petit peu forcer la question pour avoir cette réponse-là. J'aimerais vraiment un jour essayer de remporter les 3 grands tours sur une même saison. Mais après, comme l'a dit Jérôme, il y a d'autres cadors dans cette équipe. Je pense à Yates, je pense à Ayuso, qui voilà, sont aussi des coureurs de classement généraux qui ont envie de remporter des grandes courses. Donc, il faut donner à manger à tout le monde. Une équipe, c'est quand même une trentaine de coureurs. Et chez UAE, c'est pas n'importe quel coureur. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément évident de faire avaler ça au reste de l'équipe. Toutefois, je suis persuadé qu'un jour, il le tentera parce que... Pour l'équipe UAE, ça serait aussi exceptionnel. Enfin, ça serait exceptionnel à la fois pour Pogacar de réussir ce défi, mais sous la bannière UAE, évidemment, je pense que le staff, ils ont très envie que ça soit le cas.
Bien sûr, mais en plus, Tadej Pogacar, il le dit depuis qu'il a commencé le vélo, depuis qu'il a commencé à être performant chez les pros, il veut marquer l'histoire. Là, il l'a marqué avec cette triple couronne. Aucun coureur n'a gagné les trois grands tours sur la même année. Donc ça, ça serait vraiment un exploit monumental. Et Tadej Pogacar, on voit bien dans son programme de course, quand il parle d'un jour aller faire Paris-Roubaix, gagner Milan-San Remo, etc. On sent qu'il veut vraiment marquer l'histoire. Et pour lui, il est arrivé à un tel niveau que bientôt, la prochaine étape pour qu'il continue de nous surprendre, ça sera de gagner les trois grands tours dans la même année.
Mais alors justement... Jérôme, j'ai une question pour toi. Est-ce que, peu importe le coureur qu'on est, courir les trois grands tours une seule et même année, c'est pas trop ? Est-ce que ça ne demande pas trop encore ? Est-ce que c'est possible, en fait, physiologiquement, de le faire ?
Alors, bien sûr, alors pour n'importe quel coureur, c'est ultra difficile. Je ne parle même pas de gagner les trois grands tours, simplement de les faire. Il y a énormément de coureurs qui ont déjà fait les trois grands tours dans la même année. Ça, je veux dire, c'est difficile, mais ce n'est pas vraiment un problème. Mais entre faire les trois grands tours pour essayer d'aller chercher des étapes par-ci, par-là et sur quelques étapes, faire groupetto, entre guillemets, récupérer, ce n'est pas très, très compliqué, si j'ose dire. Par contre, quand vous allez avec l'ambition du classement général de gagner ces trois grands tours, vous savez, quand vous êtes leader pour gagner un grand tour, c'est de la pression tous les jours. Vous ne devez pas perdre de temps sur les étapes de plat où ça risque de bordurer. Vous ne devez pas prendre des cassures dans les sprints, donc il faut quand même aller frotter. Vous devez bien sûr être présent en montagne pour essayer d'aller gagner des étapes et prendre le maillot de leader. Vous devez être là sur les contre-la-montre. Vous êtes tous les jours à bloc, tous les jours sous pression et tous les jours avec une épée de Damoclès au-dessus de votre tête et le risque de tout perdre sur une chute, une crevaison, etc. Donc ça, nerveusement, physiquement, pour Tadej Pogacar, je n'ai pas vraiment d'inquiétude sur le fait qu'il soit capable d'enchaîner les trois grands tours, surtout qu'il y a toujours quand même beaucoup de temps, enfin entre guillemets beaucoup de temps entre les grands tours, ça lui laisse le temps de récupérer un petit peu, de refaire un petit bloc de travail avant de repartir sur un grand tour. Par contre, c'est nerveusement, c'est ultra difficile. Moi, la seule crainte que j'ai, et même si c'est Tadej Pogacar, c'est que le jour où il tente ces trois grands tours dans la même année, c'est qu'il finisse la saison nerveusement épuisé. Et même si on gagne tout, on n'est pas à l'abri de péter un plomb, de faire un espèce de petit burn-out, parce que à un moment, et en plus, s'il y arrive, à un moment donné, il va peut-être dire bon, bah, c'est bon, voilà, j'ai tout gagné, j'en ai marre du vélo, j'ai fait tellement de sacrifices, les trois grands tours, c'était dur, etc. Et puis qu'il arrête là-dessus. Donc voilà, il faut quand même faire attention, même si on gagne tout. Bien sûr, quand on gagne le vélo, c'est beaucoup plus facile que quand vous vous faites taper dessus tous les dimanches. Mais quand même, personne n'est à l'abri de péter un plomb à un moment donné. Maintenant, je reste quand même persuadé qu'il tentera sa chance et même qu'il y arrivera.
Toi aussi, Arnaud, tu le vois arriver à faire ces trois grands tours, à les remporter du moins ?
Moi, je pense qu'avec Tadej Pogacar, rien n'est impossible. Et de toute manière, il a montré qu'il était capable. Alors, bon, j'imagine que s'il s'aligne sur les trois grands tours, ça sera vraiment une énorme priorité et que derrière, le reste des courses passera en second plan. Après, Jérôme a pointé quand même, je pense, quelque chose d'assez important. C'est l'aspect mental, parce qu'il faut se mettre dans les conditions de ce que c'est qu'un grand tour. Et Jérôme l'a vécu en tant que coureur, mais moi, je peux en parler au moins en tant que suiveur. Et c'est un petit peu la même chose avec, évidemment, les 6 heures de vélo par jour en moins. Mais il y a des transferts, il y a des kilomètres à faire entre les étapes, il y a des kilomètres à faire le matin, il y a des kilomètres à faire le soir, on dort quand même pendant 4 semaines à l'hôtel, donc tout ça c'est pas forcément évident et il faut être très très solide, je pense, mentalement pour arriver à faire ça. Après, des coureurs qui disputent les trois grands tours la même année, ça existe, mais bon, ils sont peut-être pas forcément là pour les gagner et ils sont dans un rôle qui est peut-être moins prenant mentalement que celui que serait celui de Tadej Pogacar si jamais il s'alignait sur les trois grands tours pour les gagner. Donc je pense que il peut le faire, mais ça nécessite aussi une préparation, je pense, mentale, pour le coureur.
Tout aussi importante que celle que la préparation physique. Mais on l'évoquait, vous l'avez dit juste avant, messieurs, est-ce que ce ne serait pas un manque de respect pour ses coéquipiers ? On le dit souvent, le vélo, c'est un sport individuel, mais qui se fait en équipe, qui se parcourt en équipe. Est-ce que ce n'est pas un risque de te mettre tes coéquipiers à dos quand tu dis, écoutez, moi, les gars, cette année, je prends tout et le but, c'est que je ne vous laisse rien. Jérôme, toi, tu l'aurais vécu comment si c'était passé dans ton équipe ?
Ouais, mais bah ça, c'est très compliqué. C'est là où les dirigeants de l'équipe UAE vont devoir, si un jour l'occasion se présente pour Tadej Pogacar de faire les trois grands tours, c'est là où ils vont devoir être très bons. Parce que Arnaud l'a dit tout à l'heure, ils ont un effectif complètement incroyable. Vous avez
c'est ça,
Almeida.
C'est qu'ils ont des stars quand même mais aussi dans l'effectif, autre que Pogacar.
Exact, parce que alors on a Yates dans cette équipe. Yates, je pense, il n'a pas encore complètement fait une croix sur gagner un grand tour, mais on sait que c'est un bras droit ultra fidèle de Tadej Pogacar. Il n'y aurait pas de problème pour lui de se mettre à la planche sur les trois grands tours une année pour justement un peu participer à l'histoire sans que ce soit lui qui les gagne, mais d'être là pour aider Tadej Pogacar à gagner les trois grands tours. Mais par contre, Almeida et Ayuso, à mon avis, c'est une autre histoire. Ayuso a fait une petite interview là il y a quelques jours où il dit quand même Tadej Pogacar, c'est le meilleur coureur du monde. Moi, je veux être le meilleur coureur du monde. Donc, un jour, je vais devoir battre Tadej Pogacar. Donc là, quand vous appelez Mauro Gianetti, même si vous êtes certainement un des meilleurs managers du monde, quand vous allez arriver au mois de novembre ou décembre au premier stage, puis que vous allez faire vos entretiens individuels avec Almeida, Ayuso, puis vous allez leur dire bah, « Écoutez, cette année, Tadej, il veut faire les trois grands tours, puis il veut gagner les trois grands tours. » À mon avis, ils vont grimacer un petit peu les deux jeunes coureurs, là, Almeida et Ayuso, parce qu'ils veulent gagner un grand tour aussi. Et notamment le Tour de France. Alors, quand ils ont signé chez UAE, ils savaient très bien qu'avec Tadej Pogacar, le Tour de France, c'était sa chasse gardée, c'était pour lui, il n'y avait pas de problème. Mais par contre, je ne suis pas sûr que quand ils ont signé, ils doutaient qu'un jour Tadej Pogacar voulait faire les trois grands tours. On a dû leur dire, ok, vous aurez votre chance sur le Giro, vous aurez votre chance sur la Vuelta. Si Tadej double deux grands tours, bah, vous aurez quand même un grand tour pour vous pour essayer de le remporter. Là, comme on disait tout à l'heure, il faut quand même donner à manger à tout le monde. Ça, les coureurs, ils le savent, ils entendent comme nous, ils lisent les articles comme nous, ils savent très bien qu'un jour Pogacar va vouloir faire les trois grands tours. Et certains qui sont en fin de contrat, notamment Almeida qui arrive bientôt en fin de contrat, bah, lui va certainement se poser la question pour se dire est-ce que je ne dois pas aller ailleurs pour avoir ma chance sur les grands tours et espérer en gagner un.
Est-ce que vous, Arnaud, vous avez pu en discuter tout ça avec Mauro Gianetti?
Oui, mais après, il nous dit en gros ce que, ce qu'on dit tous. Enfin, Mauro Gianetti, lui, il pointe plus l'aspect presque, en fait, l'aspect mental, c'est une évidence, hein, ce dont je vous parlais il y a quelques instants, mais il semble plus mesuré que nous, finalement, sur la capacité de Tadej Pogacar à le faire. Je pense qu'il croit énormément en son coureur, mais il a conscience que, d'un point de vue sportif, c'est quand même quelque chose de très, très difficile, gagner les trois grands tours, parce que gagner les trois grands tours, ça suppose, en gros, d'être au taquet du 10 mai jusqu'au 10 septembre. Ça veut dire qu'on a 4 mois où on est à fond pour un coureur. Donc, c'est pas forcément évident. C'est cet aspect-là aussi qu'il pointe Mauro Gianetti. Donc, je pense qu'il y croit, mais il a conscience que ça sera pas non plus quelque chose de donné.
Ouais, mais si je peux me permettre, moi j'espère juste, parce que j'aimerais voir Tadej Pogacar gagner les trois grands tours pour marquer l'histoire, etc. J'ai juste peur qu'il ait pas raté le coche cette année, justement, 2024. Oui. Parce que le Giro, il l'a gagné facilement. On a dit c'était limite un stage d'entraînement pour lui. L'adversité n'était pas énorme pour un coureur de la trempe de Tadej Pogacar. Le Tour de France, il y avait Vingegaard qui arrivait d'une chute, etc. Remco Evenepoel, mais il a quand même dominé de la tête et des épaules le Tour de France. Et après, s'il avait enchaîné avec la Vuelta, de nouveau, il n'y avait pas un niveau, avec tout le respect que j'ai pour Roglic, etc. Il aurait pu gagner la Vuelta, mais il y avait le championnat du monde derrière. Donc cette année, déjà, pour moi, c'était possible pour Tadej Pogacar. Maintenant, dans les années futures, notamment l'année prochaine, on parle de peut-être Vingegaard. Alors Remco Evenepoel, avec sa chute, ça est un peu remis en question, mais on parlait de Vingegaard et d'Evenepoel sur le Giro. Donc si Pogacar y allait cette année, il aurait peut-être eu un peu plus de fil à retordre qu'en 2024. Donc tout ça, c'est des choses à prendre en compte aussi. C'est possible. Bien sûr, Gianetti, de toute façon, il ne va pas dire « Oui, je suis sûr que Tadej va gagner les trois grands tours. » Mais suivant l'adversité et le parcours, bien sûr que c'est possible. Et bien sûr que Mauro Gianetti y croit, mais il faut que toutes les étoiles soient alignées.
Bon, maintenant qu'on connaît son programme 2025 et qu'on sait donc qu'il ne sera pas sur les trois grands tours, Jérôme, toi, c'est sur quelle course que tu l'attends le plus ?
Alors, je l'attends sur beaucoup de courses, mais moi, j'aimerais le voir remporter Milan-San Remo parce que j'aimerais qu'un jour, il gagne tous les monuments. C'est vraiment la course, j'ai l'impression, qui le fait rêver. C'est la course qui lui résiste. Il n'y a pas beaucoup de courses qui résistent à Tadej Pogacar. Souvent, il se présente au départ. S'il ne la gagne pas à sa première participation, il la gagne à sa deuxième. Mais il y a très peu de courses qui lui résistent. Et puis, Milan-San Remo, c'est celle qui lui résiste. C'est celle qui lui convient un petit peu moins bien. Il a tenté différentes stratégies. Pour l'instant, ça n'a pas fonctionné. Alors, il fait quand même troisième. deuxième. Attention, il est là, mais par contre, il n'a pas encore gagné. Donc moi, c'est vraiment sur cette course-là que je l'attends beaucoup, que j'aimerais le voir remporter.
Douzième il y a 4 ans, cinquième il y a 2 ans, quatrième il y a 1 an, troisième cette année. Voilà, il tourne quand même autour du pot sur Milan-San Remo. Jérôme l'a rappelé, il a tenté différentes stratégies. On avait vu cette année qu'il avait fait notamment rouler très très tôt son équipe à 60 km de l'arrivée dès les premières difficultés. Moi, je suis assez d'accord avec Jérôme. Voilà, Milan-San Remo, c'est la course qu'on a envie de le voir remporter cette année. Franchement, c'était quand même assez exceptionnel ce final dans le Poggio avec cette grosse attaque qu'il place. Finalement, Mathieu Van Der Poel est le seul à parvenir à le suivre. Mathieu Van Der Poel va condamner dans la descente du Poggio finalement toute velléité de victoire pour Tadej Pogacar parce que derrière, ben, il roule pas et ça permet à son coéquipier Jasper Philipsen de revenir et de s'imposer sur la Via Roma. Donc voilà, c'est la course la plus imprévisible finalement du calendrier presque Milan-San Remo. Et bon, ben voilà, c'est celle qu'on aime aussi le voir pas perdre. C'est pas qu'on aime voir perdre Pogacar, mais on apprécie en tout cas de le voir. Voilà, ça le rend humain et de se dire bon ben non, tout n'est pas aussi facile que ça. Donc on a envie, c'est vrai, de le voir gagner sur cette course. Mais je me demande bien, avec un Van Der Poel qui va être encore énorme cette année, comment il va parvenir à la gagner. Mais je l'attends forcément sur cette course. J'aimerais bien aussi le voir. Bon ben, on connaît ses qualités sur les pavés des Flandres, hein, mais j'ai hâte de le revoir notamment sur le Grand Prix E3 à Relbeek et sur Grand Wewel Game. Ça va être très sympathique.
Bon, Milan-San Remo, il y a pas que nous qui avons envie de le voir gagner. Lui aussi, il aimerait bien la remporter. Écoutez.
C'est la course d'un jour la plus imprévisible du calendrier, mais c'est une course que je veux vraiment gagner. Je veux encore m'améliorer dessus. Je tourne autour, mais je n'arrive pas à la gagner pour l'instant. En 2025, ce sera l'un de mes grands objectifs. C'est la course la plus longue de la saison. C'est un monument. Il faut rester concentré jusqu'au bout. Donc, je veux gagner Milan-San Remo.
Comment ça se fait, comment on explique, Jérôme, que cette course, elle lui échappe pour l'instant et qu'il n'arrive pas à la gagner ?
Bah, comme il le dit lui-même et comme Arnaud l'a dit aussi, c'est une course qui est très imprévisible. Elle est très longue, elle n'est pas très dure. Toutes les difficultés sont concentrées sur la fin du parcours. Ça laisse le temps aux équipes d'être bien organisées. On connaît la force collective du AE. Dès que c'est difficile, ils arrivent à faire exploser tout un peloton. Même Milan-San Remo, c'est dur, mais c'est pas vraiment assez dur pour vraiment mettre en difficulté toutes les autres formations du peloton. Donc il y a l'année dernière, il a tenté de faire rouler son équipe à 50 ou 60 km de l'arrivée, mais ils n'ont pas réussi à le faire aussi bien qu'ils auraient voulu, à rouler aussi fort qu'ils auraient voulu pour vraiment tout faire péter. Et dans le Poggio, même si on est très fort comme Tadej Pogacar, c'est difficile de sortir un Mathieu Van Der Poel notamment. On a vu dans les années passées, même un Filippo Ganna pouvoir passer une montée comme ça par exemple. Donc je pense qu'il va falloir qu'il change un petit peu sa stratégie, peut-être pardonnez-moi l'expression, mais qu'il foute le bordel un petit peu plus loin encore et directement lui qui prenne les choses en main pour vraiment tout faire exploser et désorganiser les autres équipes. Mais c'est très compliqué parce que faire ça, ça veut dire qu'il faut faire ça dans les montées dans la Cipressa ou dans les montées un petit peu avant le Poggio, mais après tout seul c'est quasiment mission impossible de nouveau. Donc c'est pour ça que cette course elle est imprévisible et qu'elle est dure à aller gagner pour Tadej Pogacar, parce que c'est dur de mettre en difficulté les autres équipes. Tout seul, vous ne pouvez pas vraiment aller au bout. Si vous avez, comme ça s'est passé cette année, un Mathieu Van Der Poel qui bascule avec vous dans la roue, mais avec Philipsen derrière, bah, il va condamner l'entreprise de Tadej Pogacar. Donc voilà, c'est très compliqué comme course tactiquement à gérer. Mais c'est ça qui la rend belle. Et c'est pour ça que Tadej Pogacar veut aussi la gagner, parce que tactiquement, il y a vraiment des choses à mettre en place. Il n'a pas encore trouvé les clés, mais j'espère pour lui que ça arrivera. Mais en tout cas, elle est très très difficile à cerner, cette course, et il faut avoir un collectif très fort, il faut bien sûr être très fort. La seule chose qui manque un petit peu à Tadej Pogacar sur ce type d'épreuve, c'est une pointe de vitesse, parce qu'après, quand vous arrivez sur la Via Roma, si vous avez un Philipsen qui a basculé, voire un Mathieu Van Der Poel, c'est quand même difficile d'aller les battre au sprint.
C'est ça, c'est que le final n'est pas assez dur par rapport aux autres pour qu'il puisse la gagner. C'est comme ça qu'on l'expliquerait aussi.
Le Poggio en soi, c'est je dirais pas que n'importe quel cyclotouriste peut la monter comme ça, les doigts dans le nez, mais c'est vrai que c'est pas une côte qui est extrêmement difficile. Ce qui la rend difficile finalement, c'est que Milan-San Remo, c'est la course la plus longue du calendrier. C'est une course de 300 km. En fait, elle arrive après 295 km de course. C'est ça qui finalement la rend difficile. Mais ça la rend difficile auprès de 95% du peloton. Le problème, c'est que pour des Pogacar, pour des Van Der Poel, pour des Van Aert, pour des Alaphilippe à la grande époque, finalement, c'était pas quelque chose d'extrêmement dur.
C'est pas insurmontable.
Ou même pour Jasper Philipsen, on l'a vu, c'est pas insurmontable. Donc, pour des sprinteurs, hein, on voit souvent des sprinteurs s'imposer sur cette course. Donc, c'est là où il va falloir rivaliser d'ingéniosité, j'ai envie de dire, pour Tadej Pogacar, pour savoir comment se débarrasser des sangsues voilà, qui lui collent à la peau, la dernière ayant été Mathieu Van Der Poel.
Messieurs, est-ce que cette course, elle est indispensable pour marquer définitivement l'histoire du vélo? Est-ce qu'il faut impérativement la remporter?
Pour moi, oui. Mais c'est pas la seule.
Ouais, c'est une très bonne question parce qu'il a déjà marqué l'histoire du vélo. Même Eddy Merckx, on l'a vu cette année dire qu'il l'avait dépassé. On dit qu'Eddy Merckx, c'est le GOAT du cyclisme. Donc lui-même dit que Tadej Pogacar est meilleur que lui. Donc il a déjà marqué l'histoire. Mais je suis d'accord avec Arnaud. Pour moi, un coureur de cette trempe-là, il faut qu'il essaye de gagner les 5 monuments. Est-ce qu'il va y arriver? On ne sait pas. Milan-San Remo, il court tellement après qu'il faut qu'il la gagne. Après, il a aussi d'autres manières de marquer l'histoire. Par exemple, sur les classiques ardennaises, notamment cette année, c'est gagner les 3 dans la même semaine. Il n'y a que Davide Rebellin et Philippe Gilbert qui l'ont fait. Ça peut aussi contribuer à marquer l'histoire. Mais ouais, moi, je pense qu'il doit gagner cette course pour continuer à marquer encore plus l'histoire.
Arnaud, vous avez eu l'occasion de lui demander à Pogacar s'il espérait faire mieux cette saison que la saison passée, ce qui semble quand même assez compliqué. Lui, il le dit, il aimerait faire mieux que la saison passée. Donc, on le rappelle, 2024, c'est 25 victoires en 54 jours de course. À part Milan-San Remo, qu'est-ce qui pourrait faire que sa saison soit encore mieux?
Ça va être compliqué quand même, parce que 6 victoires d'étape sur le Giro, 6 victoires d'étape sur le Tour de France, les classements généraux de ces deux grands tours, les championnats du monde, le Tour de Lombardie, Liège-Bastogne-Liège. Alors, ce qui pourrait être mieux éventuellement, c'est de gagner, de regagner l'Amstel Gold Race, la Flèche Wallonne, c'est de gagner le Tour des Flandres, même si c'est une course qu'il a déjà fait. Inscrire son nom au palmarès de Gambrewelgem, bon, c'est pas un monument, mais ça reste quand même l'une des 10 plus grandes classiques de la saison. Voilà comment faire mieux pour Tadej Pogacar, mais franchement, il faut se gratter la tête quand même pour savoir comment il va pouvoir faire mieux.
Jérôme, t'es d'accord?
Ouais, je suis d'accord. En fait, il faut aller chercher ce qu'il n'a pas encore fait finalement, Tadej Pogacar, parce qu'il est il est à un tel niveau. Maintenant, je me demande s'il gagne encore un Tour de France. Bien sûr, il continue à rentrer dans la légende, mais est-ce que ça contribue encore à renforcer sa légende? Oui, mais moi, je préférerais le voir gagner, bien sûr, un Paris-Roubaix, un Milan-San Remo, par exemple, presque un Tour de France, parce que c'est quelque chose qu'il n'a pas encore fait. S'il tente le doublé Tour-Vuelta, bah voilà, s'il gagne la Vuelta, il ne l'a encore jamais remporté, et ben voilà, c'est encore une amélioration dans son palmarès et dans sa légende. Voilà, il y a toutes ces... En fait, finalement, c'est que les courses où il n'a pas encore gagné qui va contribuer à renforcer sa légende. Moi, j'aimerais bien un jour aussi le voir gagner un titre de champion du monde chrono. Est-ce qu'il va s'aligner cette année? Je ne sais pas. On sait qu'il roule très bien, mais comme ça permettrait de voir face à Remco Evenepoel, face à Ganna, par exemple, sur un chrono, voilà, le voir être champion du monde chrono, champion olympique plus tard aussi. Il n'a encore jamais gagné les Jeux olympiques. Alors là, je ne parle pas pour 2025, je parle pour la suite de sa carrière. Mais voilà, il y a encore des pistes pour Tadej Pogacar pour renforcer sa légende. Et heureusement, parce qu'il a 26 ans, il a quasiment déjà tout gagné. Il faut qu'il lui reste encore un petit peu d'objectifs pour les années à venir.
Bon, en tout cas, Mauro Gianetti, lui, il est pragmatique, il te l'a dit d'ailleurs, Arnaud. Lui, une saison à l'image de l'année 2024, ça ne lui déplairait pas.
On a vu Tadej chaque année mettre un petit pas en avant, un petit peu plus. Je signerai s'il reste comme cette année, mais s'il peut avancer, tant mieux, quoi.
Arnaud, il a emmagasiné de l'expérience cette année, Pogacar, avec toutes ses victoires. Est-ce que ça peut l'aider à aller encore plus loin en 2025?
En tout cas, lui, il dit que oui, Tadej Pogacar, et il explique évidemment que, Jérôme l'a dit il y a quelques instants, il a 26 ans, ça reste coureur extrêmement jeune, malgré le palmarès de dingue qu'il a. On considère, on considérait il y a quelques années que la maturité du cycliste, l'âge d'or, c'était entre 28 et 32 ans. Donc, je ne sais pas si on se rend compte voilà, que Tadej Pogacar a quand même déjà gagné tout un tas de courses et à plusieurs reprises, et il a encore 2 ans pour atteindre le prétendu âge d'or du cyclisme. Donc forcément, lui, il le dit, il a de l'expérience à prendre, et puis il va chercher surtout comment s'améliorer encore physiquement, aller chercher ces petits pourcents qui peuvent faire la différence à travers le sommeil, à travers la nutrition, à travers l'entraînement. Bon voilà, on a entendu parler des méthodes un petit peu qui font polémique autour du monoxyde de carbone carbone récemment pour simuler, pour ceux qui connaissent, les situations d'hypoxie, c'est-à-dire les situations d'altitude, de haute altitude, pour stimuler la production de globules rouges. Bon, en tout cas, on cherche du côté de Tadej Pogacar encore à savoir comment on va s'améliorer. Donc l'expérience, évidemment, c'est quelque chose qui va l'aider à toujours faire mieux dans la gestion des courses, même si pour le coup, franchement, il n'y a quand même pas grand-chose à dire sur sa gestion des courses. Donc on se demande toujours comment on peut faire mieux. Mais c'est aussi ça qui est fascinant avec ce coureur, c'est on se demande où est-ce qu'il va pouvoir s'arrêter. Et ses entraîneurs, et notamment Javier Solá, il est incapable de dire, moi je sais pas, si vous savez, tant mieux pour vous, mais moi je sais pas où est-ce qu'il peut s'arrêter.
Ouais, et ça, c'est, on voit qu'il y a toujours des pistes d'amélioration. Regardez cette année au Tour de France, quand il se fait battre par Vingegaard, on sait qu'il a fait peut-être une petite fringale, en tout cas c'est ce qu'on imagine. Donc comme l'a dit Arnaud, voilà, sur la nutrition, bah, il y a peut-être encore un petit peu de travail, il a peut-être sauté un ravito dans le feu de l'action et puis il a vu qu'il l'a payé cash derrière. Donc ça, avec l'expérience, il refera pas cette petite erreur. Il va y avoir des évolutions, on sait que on en parlera peut-être après, mais le matériel, ça évolue constamment. Quand il a perdu ses deux Tours de France face à Vingegaard, bah finalement, est-ce que c'était un mal pour un bien? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est de l'expérience que tu prends. En perdant, tu dois te remettre en question. Tu apprends beaucoup plus quand tu perds que quand tu gagnes, finalement. Donc, bien sûr que toutes ces saisons qu'il a derrière lui servent. Plus on a d'expérience, de toute façon, mieux c'est. Arnaud parlait de la maturité. C'est vrai, maintenant, je me demande si la maturité des cyclistes ne va pas arriver un petit peu plus tôt, parce qu'on voit que certains, Remco Evenepoel, Paul Sexas, notre Français cette année notamment, passent même plus par la catégorie espoir, ils passent direct de junior aux équipes pro-tour.
Comme pour tous les sports, finalement, par être de plus en plus performants plus tôt.
Exactement, les coureurs, maintenant, quand je discute avec des juniors qui sont au très haut niveau, c'est plus du tout comme à mon époque quand j'étais junior. Nous, on faisait du vélo en junior, on performait un peu comme on pouvait, mais on s'amusait, on pensait pas nutrition, etc., capteur de puissance. Ouais. Eux, ils sont déjà au point, donc la maturité va peut-être arriver plus tôt, mais les carrières seront peut-être un petit peu plus courtes aussi. Quand vous passez pro à 19 ans par rapport à 22 ans, bah, bien sûr que toute la pression que vous avez chez les pros, des résultats, de faire le métier, de bien dormir, de bien manger, etc., ben on verra peut-être plus des coureurs à la Chavanel arrêter leur carrière à 39 ans. Donc voilà, c'est un peu le revers de la médaille, mais comme l'a dit Arnaud, je pense que personne ne connaît encore les limites de Tadej Pogacar, même son entraîneur ne les connaît pas, et tant mieux, parce que si un entraîneur connaît les limites de son coureur, ben ça peut poser un petit problème, parce que s'il sait qu'il l'a amené au top du top, qu'il ne peut plus rien faire avec lui, plus le faire progresser, ben là, on se retrouve un peu face à un mur et on ne sait plus vraiment quoi faire de ce coureur. Donc tant qu'on voit des axes d'amélioration, c'est tant mieux. Alors c'est pas de bol pour les adversaires de Tadej Pogacar, parce qu'apparemment il y a encore beaucoup d'axes de progression, donc il sera encore là sur le devant de la scène pour quelques années. Ouais.
Il a été interrogé justement, Tadej Pogacar, sur les axes d'amélioration. Écoutez-le.
I mean, improvements...
Si je peux m'améliorer, déjà mon expérience grandit, je ne suis pas un vieux coureur, donc il y a encore des développements de ce point de vue-là. On verra aussi cet hiver ce que je peux améliorer physiquement. On va voir sur les premières courses de la saison si je peux être encore meilleur, mais même si je suis un peu moins bien que la saison dernière, ça devrait aller.
Bon, il a l'air confiant quand même, Tadej Pogacar, pour la saison à venir. Bon, il y a une chose dont on n'a pas encore parlé, messieurs. Il a un nouveau vélo, Tadej Pogacar, encore plus aérodynamique que le précédent. Pardon. Dans quelle mesure ça peut jouer sur ses performances?
Alors ça, attention à la com, parce que ça, c'est ouais. Voilà, ça, ils sont toujours très bons.
Complètement d'accord avec toi,
Jérôme. Les marques de vélo, voilà, te sortent un nouveau vélo. Tous les nouveaux vélos sont toujours révolutionnaires, toujours comme ça. Maintenant, il y a un truc. Alors, il y avait une vraie lacune chez UAE et plutôt chez Colnago, leur marchand de cycles, leur marque de vélo, c'est qu'ils n'avaient pas vraiment de vélo aéro. On sait la différence que ça peut faire entre un vélo plutôt typé montagne et un vélo aéro en termes de watts sur le plat, etc. À vitesse égale, avec un vélo aéro, on développe moins de watts, donc on s'économise, etc. C'était un peu la lacune que Colnago avait, qu'ils essayent de gommer avec ce nouveau vélo. Alors déjà, la géométrie est très surprenante, on va dire. Maintenant, moi, j'attends de voir les tests qui vont être faits. Alors, c'est toujours par des marques ou des personnes indépendantes, hein, qui testent tous les vélos. Voilà, ils ont des bancs pour tester l'aérodynamisme, les roulements, etc. Et en fait, c'est eux qui vont faire foi. La marque va dire, oui, moi, mon vélo, il gagne 20 watts à 40 km/h, etc. Ça, c'est du pipeau, c'est de la flûte. Il faut attendre que ça passe sur les bancs d'essai pour voir vraiment ce que ça donne. On sait que les vélos Colnago, enfin le vélo Colnago que Pogacar utilisait notamment, comme c'était plutôt un vélo typé montagne, bien sûr qu'à haute vitesse sur le plat, ce n'était pas du tout un des meilleurs vélos. Si on les compare à Canyon, Specialized ou d'autres marques comme ça qui sont beaucoup plus performants, celui-là, le vélo de Tadej Pogacar, n'était pas au niveau. À voir si le nouveau le sera, mais de nouveau, moi j'attends de voir les tests parce que c'est beaucoup de com là-dessus. J'attends de voir les résultats de ces tests-là.
Arnaud, tu es d'accord? Attention à la com.
Ah bah, je suis complètement d'accord parce que, bon, voilà, après, je suis évidemment beaucoup moins connaisseur de la question du matériel que Jérôme, qui forcément a été amené à tester tout un tas de vélos dans sa carrière professionnelle. Mais c'est vrai que souvent, on voit les marques qui ont besoin d'exister. On voit de plus en plus les coureurs, je pense à Remco Evenepoel, je pense à même Tadej Pogacar, à Mathieu Van Der Poel, qui soulèvent, vous savez, ceux qui gagnent avec 3 minutes d'avance, ils s'arrêtent sur la ligne d'arrivée, ils soulèvent leur vélo à bout de bras et comme ça, ça fait une photo pour l'histoire avec la marque du vélo.
Ah oui,
donc, faut quand même pas oublier, même si Colnago c'est pas une marque d'entrée de gamme et qui se destine vraiment au très grand public, on va dire que même pour les amateurs, ça reste quand même des budgets assez conséquents. Ouais. Donc, il n'y a pas énormément d'amateurs qui vont acheter un Colnago. Mais toutefois, ça permet aussi quand même de populariser la marque, de parler de la marque et de dire ah bah tiens, bah, Pogacar il a un vélo Colnago. Allez, si j'allais pas mettre 4 ou 5 000 euros, moi aussi dans un vélo. Donc, moi je reste toujours très très prudent par rapport à ça. Il est évident qu'il y a des vélos qui sont mieux que d'autres, ne serait-ce que par le poids, en fait, on se rend bien compte qu'un vélo de 6,8 kg, qui est la limite basse autorisée par l'UCI, a priori, ça sera un vélo de meilleure facture qu'un vélo qui approchera les 8 kg, comme il en existe encore quelques-uns dans les équipes professionnelles. Je pense notamment à Villiers, qui équipait Total Energy il y a quelques années et qui, voilà, justement, avait du mal à baisser le poids, la masse totale de son vélo. Mais attention vraiment à la communication. On n'oublie pas quand même que le vélo, ce sont des hommes sandwich, il y a des marques partout et ça commence évidemment par le vélo qui a envie pour une marque de se vendre auprès du grand public.
Ouais, et pour rebondir là-dessus, on peut prendre le problème, si j'ose dire, à l'inverse. Regardez Van Riesel l'année dernière avec oui. Decathlon. Van Riesel, qui est une marque de Decathlon justement, c'était AG2R vont avoir Van Riesel, oh là là, les vélos vont être nuls, etc. Eux, ils n'ont pas fait trop de com, mais quand les vélos sont passés sur les bancs d'essai, ils étaient vraiment très très bons, les vélos. Et vous pouvez parler à tous les coureurs de l'équipe Decathlon AG2R, ils sont très contents de leur vélo.
Ce qu'on a souligné tout au début de la saison quand ils ont enchaîné les victoires. On disait qu'ils avaient un matériel qui leur permettait aussi d'engranger autant de victoires.
Exactement. Et ils quittaient BMC pour aller chez Van Riesel. On s'est dit, oh là là, ils avaient des super vélos. BMC, c'est une super marque. Ça marche super bien. Ils vont aller chez Decathlon. Ils vont avoir que des problèmes. Finalement, ça ne s'est pas passé. Quand vous avez une marque historique comme Colnago, c'est vraiment... Alors, vous avez Colnago, Pinarello, Specialized. C'est vraiment des marques historiques. Dès qu'ils sortent un vélo, on se dit oh, c'est des super vélos parce que Colnago, ils font des vélos depuis des années et des années. Ils connaissent leur boulot, etc. Mais ça, c'est pas vrai. C'est pas forcément vrai. C'est pas parce que Colnago sort un nouveau vélo qu'il sera forcément bon, comme une autre marque d'ailleurs. Et à l'inverse, une marque qu'on pense, en tout cas qui fait moins rêver, moi j'ai pas de problème avec Van Riesel, mais certains se disent ah, moi je veux pas acheter Van Riesel parce que c'est Decathlon, puis je préfère prendre une marque historique. Mais des fois, les vélos type Van Riesel, le vélo aéro Van Riesel sera peut-être meilleur que le nouveau vélo aéro de chez Colnago qui a été fait pour Tadej Pogacar.
Et il faut se rendre compte de l'importance là. Bon, je fais une petite parenthèse de cycliste amateur, mais bon, moi je vis, enfin on vit sur Paris, donc on va rouler à l'hippodrome, autour de l'hippodrome de Longchamp, on va rouler au polygone de Vincennes, là où il y a beaucoup de cyclos qui viennent. C'est un petit peu la battle effectivement de savoir qui atteint toi, t'as telle marque de vélo. Et c'est vrai que si tu te ramènes avec un Van Riesel ou avec une marque ouais. premier prix de voilà d'une marque de grande distribution, bah tu vas être un peu regardé de travers et puis toi-même tu vas te dire ah ouais lui son vélo là c'est quand même un truc de malade et tu vas avoir envie de ce vélo là donc vraiment les marques aussi rentrent un petit peu dans nos têtes de ce
Bien
point
sûr.
De vue là donc faut toujours ouais. très attention.
C'est le but du jeu également.
Exactement.
Messieurs, avant de conclure, je voulais vous interroger sur la non-participation de Tadej Pogacar à Paris-Roubaix. On ne le verra pas cette année sur Paris-Roubaix. Pourtant, c'est une course à laquelle nous, les Français, on est très attachés, forcément. Est-ce qu'on peut espérer le voir un jour s'aligner sur les pavés du Nord, Arnaud ? Et si oui,
la réponse est oui. La réponse est oui. Enfin, la première question, la réponse est oui. La deuxième question, je suis incapable de te répondre. Je pense que Tadej Pogacar a une envie... plus qu'importante de gagner un jour Paris-Roubaix. Il a démontré déjà lors des passages pavés sur le Tour de France, notamment il y a 2 ans, dans les étapes juste après le Danemark, qu'il était tout à fait performant sur ce type de revêtement. Toutefois, en tout cas c'est ce que dit son manager Mauro Gianetti, ça demanderait quand même de sacrifier tout un tas d'autres objectifs en début et en milieu de saison pour pouvoir se consacrer exclusivement à Paris-Roubaix, parce que bon, il y a l'expérience évidemment des pavés, il y a du développement matériel, il y a aussi du développement physique, hein, quand on fait, je ne sais pas exactement quelle est la masse de Tadej Pogacar, mais il doit être autour des 55-60 kilos. Forcément, on passe moins bien les pavés quand on fait 60 kilos que quand on en fait 70, qu'on est plus massif et que donc il y a moins de vibrations en dessous du vélo. Donc voilà, c'est tout un tas de choses à développer pour Tadej Pogacar. S'il veut faire un jour Paris-Roubaix, il le fera parce qu'il a vraiment envie de le faire, mais ça va lui demander quand même de consacrer un temps de préparation non négligeable, parce que évidemment, s'il le fait, c'est pas juste pour dire « Ah, j'ai fait Paris-Roubaix ».
Bien sûr, c'est pour l'emporter. On a commencé à comprendre le garçon. T'es d'accord, toi, Jérôme, il faudrait sacrifier une demi-saison pour pouvoir remporter Paris-Roubaix pour Tadej Pogacar ?
Ouais, alors une demi-saison, je sais pas, mais en tout cas, alors sur le début de saison, ça va pas changer grand-chose. Si vous regardez les vainqueurs de Paris-Roubaix, Mathieu Van Der Poel, Philipsen, etc., ils passent par Milan-San Remo, l'Estrade Bianche, etc. Donc la première partie de saison, on va dire, sera pas vraiment différente pour Tadej Pogacar. Par contre, c'est plus dans l'approche de Paris-Roubaix. C'est-à-dire, faudrait aller faire beaucoup de reconnaissance, faudrait aller tester du matériel, justement, on en a parlé. C'est des pneus spéciaux, éventuellement des roues spéciaux, voire un cadre spécial, spécialement fait pour Paris-Roubaix. Faut aller rouler sur les pavés, faut aller reconnaître tous les secteurs, parce que Tadej Pogacar, même s'il a fait quelques secteurs pendant des étapes du Tour de France, c'est pas la même chose que quand vous faites Paris-Roubaix. Vous n'avez pas les mêmes adversaires, ça frotte pas de la même manière, il n'y a pas autant de kilomètres de pavés que sur Paris-Roubaix. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'il passe beaucoup de temps sur les pavés du Nord, il faudrait qu'il passe beaucoup de reconnaissance, et ça voudrait dire moins de stages en altitude, par exemple, moins de voilà d'autres courses qu'il aimerait éventuellement gagner. Donc voilà, ça lui demandera de sacrifier 2-3 petites choses. À mon avis, leur étape première, c'est d'essayer d'aller gagner Milan-San Remo. S'il gagne Milan-San Remo en 2025, peut-être que sa participation à Paris-Roubaix va arriver beaucoup plus vite, parce que c'est pas du tout les mêmes efforts. Hein, pour aller gagner à Milan-San Remo, le Poggio, il monte ça à 5-6 minutes d'effort à peu près. Donc c'est des efforts très courts, comme le Tour des Flandres par exemple. C'est des efforts en montée très difficiles, très courts, ultra punchy, alors que sur Paris-Roubaix, c'est aussi des efforts durs, mais plutôt à plat, donc c'est pas le même entraînement, c'est pas le même effort. Donc ça veut dire que toute sa préparation, le jour où il veut aller sur Paris-Roubaix, va être complètement différente. Et ça va demander de sacrifier des courses qui arriveront après Paris-Roubaix. Par contre, il va se préparer pour Paris-Roubaix, mais comme la préparation n'aura pas été la même en termes d'effort en montée, durée d'effort entre 5, 10, 15 et 20 minutes pour les autres types de classiques, et ben ça veut dire qu'il va sacrifier peut-être les classiques ardennaises par exemple, voire d'autres courses. Donc faudra vraiment que le jour où il se lance dans Paris-Roubaix, et je suis d'accord avec Arnaud, il va y aller, on ne sait pas quand, mais il ira, c'est certain, faudra qu'il fasse une croix sur des courses qui arriveront après Roubaix.
Bon, pour autant, on le verra quand même hein, parcourir la campagne flamande, il sera notamment sur le Tour des Flandres, qui demande du coup une préparation moins importante.
Bah, c'est pas tout à fait les mêmes pavés sur le Tour des Flandres, hein. Les pavés de Paris-Roubaix, faut juste se rendre compte de la rugosité, mais pour se rendre compte de la rugosité, en fait, il faut aller rouler dessus, tout simplement.
Arnaud, je vais pas m'y aventurer.
Mais pourquoi pas, Roxane, mais même avec un VTT, vas-y. Non, mais même avec un VTT, honnêtement, c'est faut quand même être solide pour passer la trouée d'Arambert. Le Tour des Flandres, il y a deux choses qui sont un petit peu différentes. Donc, c'est que déjà les pavés sont un petit peu plus accueillants, si je puis dire, parce que ça reste quand même des trucs assez difficiles à passer. Et puis il y a un aspect de la performance qui est essentiel sur le Tour des Flandres, c'est cet aspect de puncher. Et là, Tadej Pogacar, il a démontré que c'était un parfait puncher. Sur Paris-Roubaix, comme c'est tout plat, il n'y a pas ce côté puncher. Donc c'est plus facile pour lui d'aller faire des différences a priori sur le Tour des Flandres que sur Paris-Roubaix.
Ouais, la grande différence en fait entre les deux, c'est le dénivelé finalement. Sur le Tour des Flandres, c'est dur. Il y a des pavés, mais c'est dur. Le profil est dur. La course est très longue aussi, mais c'est dur. Alors que Paris-Roubaix, le profil est complètement plat. C'est pas du tout le même effort. Et bien, comme dans une moindre mesure comme Milan-San Remo pour Tadej Pogacar, c'est pas un profil qui lui convient. C'est très difficile de lâcher quelqu'un sur un secteur pavé plat. On le voit, hein. Alors ça arrive, Mathieu Van Der Poel arrive à lâcher ses adversaires, mais pour Tadej Pogacar c'est un peu différent. S'il y avait sur Paris-Roubaix un ou deux secteurs pavés en montée très dur, pas très loin de l'arrivée, là ça serait autre chose. Alors que le Tour des Flandres c'est très dur, hein. On voit dans tous les monts, il est capable de faire la différence. On l'a vu quand il se bat avec Mathieu Van Der Poel, ben même Wout Van Aert a du mal à suivre. C'est vraiment sur leur qualité de puncher qui font la différence, ce qu'il ne peut pas faire sur un Paris-Roubaix. Donc voilà, c'est vraiment le profil de ces deux courses qui est différent. C'est pour ça que le Tour des Flandres convient beaucoup mieux à Tadej Pogacar que Paris-Roubaix.
Bon, quoi qu'il en soit, on va se régaler encore cette année à voir Tadej Pogacar sur les routes de France, du reste de l'Europe et du monde même. Merci messieurs, c'était un plaisir de faire ce podcast vélo avec
plaisir
vous.
Plaisir partagé, Roxane.
On se retrouve, merci beaucoup messieurs, on se retrouve rapidement pour parler cyclisme. Parce que cette année, vous le savez, on ne l'a pas encore dit aux auditeurs, mais on a décidé de ne plus s'arrêter. Trêve de saison ou pas, on est toujours là pour parler de ce qui nous passionne. Alors pour manquer aucun épisode, évidemment, abonnez-vous et puis n'hésitez pas à noter ce podcast aussi, ça nous est d'une grande aide. Bonne semaine à tous, à très vite.
RMC, Grand Plateau.